Radio Notre-Dame. À quoi ça sert l'Église ?
À quoi ça sert l'Église ?
Une émission présentée par Sylvain Sismondi.
Bonjour. Le travail, lieu de réussite, d'ascension sociale, lieu de division et d'injustice, lieu d'épanouissement ou d'esclavage. Aujourd'hui comme hier, cette réalité du travail qui est au cœur de notre vie déroute. Le travail est-il une bénédiction ou une malédiction de Dieu ? Avec nous, le Père Gérard Thieu. Père, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes prêtre de la prélature de l'Opus Dei, c'est notamment pour ça que je vous ai invité. Parce qu'en travaillant les écrits de votre fondateur, on s'aperçoit qu'il attache une importance toute particulière au travail.
Centrale même.
Il parle souvent, par exemple, de la sanctification du travail. Et pourtant, c'est vrai qu'on n'est pas habitué dans nos églises à entendre parler de cela. Alors, qu'est-ce que le travail a à voir avec la foi ?
Bah écoutez, le travail a à voir avec la foi, dans la mesure où la foi consiste à faire confiance à Dieu, à tout faire pour se rapprocher de lui, à interpréter les signes de la Providence comme des signes nous étant accordés à nous. Le travail occupe beaucoup d'heures dans la journée. Si on ne relie pas le travail à la foi, alors on a une foi au ralenti, ou on a une foi du week-end, on a une foi quelques minutes par jour, et puis le reste du temps, et d'ailleurs je crois que c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens, je veux bien prier, je veux bien, mais que voulez-vous, j'ai pas le temps, j'ai trop de travail. Et donc très souvent, le travail est vu comme un empêcheur de tourner en rond pour mener sa foi à bien, pour développer sa foi, pour que la lumière de la foi éclaire chaque instant de ma vie. Et combien de fois j'entends ça, hein, puisque vous avez dit que je fais partie de l'Opus Dei, donc c'est vrai que l'un des messages que je délivre, c'est celui de mon fondateur, sanctifier le travail, se sanctifier par le travail, sanctifier les autres par le travail, et les gens ouvrent des grands yeux, et quand on leur propose un plan de vie spirituel, l'occasion de progresser dans leur foi, ils disent ça, mais je peux pas. Hein. Les jeunes, j'ai des examens à préparer, je peux pas. J'ai des cours. L'homme d'affaires qui est toujours pressé, qui est toujours stressé, je peux pas. Et donc, le travail nous empêche, en fait, très souvent, dans la réalité, je dis pas dans la théorie, pas du point de vue du bon Dieu, je pense, j'espère qu'on aura l'occasion de l'expliquer, mais dans la réalité, le travail nous empêche très souvent d'aller vers Dieu.
Et c'est une sorte d'obstacle. Alors, ce qui est très drôle, c'est que c'est très naturel de penser qu'au fond, c'est une malédiction de Dieu parce que ça nous fait souffrir. D'ailleurs, travail, ça vient de je crois, tripalium, qui est un instrument de torture à la base. Mm-hmm. Et alors, on va prendre cet extrait de la Genèse,
oui,
qui est peut-être à l'origine, oui, précisément, d'un quiproquo. C'est Genèse, chapitre 3,
oui,
versets 17 à 19. Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes au sol puisque tu en fus tiré.
C'est très significatif ce que vous venez de lire. Parce que vous voyez, vous me citez le livre de la Genèse. Alors évidemment, on est un petit peu coincé, c'est la parole de Dieu. On se dit, bon ben voilà, hein, voilà, c'est bien ce que je disais, le travail.
La punition.
C'est la punition, hein. C'est une malédiction. Ah, il faut encore que je travaille. Et que de gens vous disent que le pire jour de la semaine, c'est le lundi matin, parce qu'on recommence à travailler, et que le plus beau, hein, c'est le vendredi soir ou le samedi en fin de journée, parce que là, on va pouvoir finalement se reposer. Il y a un petit livre dans Marcel Pagnol, dans un de ses livres, je ne sais plus lequel, enfin le château de mon père, la gloire de mon père, ou le château de ma mère, je ne me souviens plus. Et il dit, à l'époque, peut-être que vous êtes trop jeune, mais à l'époque, le jour de vacances des écoliers était le jeudi. Et donc, il parle du mercredi soir, qui est le plus beau jour de la semaine, parce que le lendemain, on a vacances, on n'a pas école. Alors, vous voyez, ce texte de la Genèse qui effectivement présente le travail comme une bénédiction, vous me rappelez là, le chapitre ?
Bénédiction,
oui,
mais Genèse, Genèse chapitre 3.
Voilà, et bien, il faut d'abord lire le chapitre 2, et même le chapitre 1. Et donc, quand on omet le 1 et le 2, on comprend mal le 3. Que dit le chapitre 1 ? Le chapitre 1, c'est le récit de la création. C'est un récit qui n'est pas destiné à nous dire que Dieu a exactement fait comme ceci ou comme cela. Il est destiné à nous dire que c'est Dieu qui a fait le monde. Et on parle généralement d'ailleurs de l'œuvre de la création. Alors, on m'avait dit, travail, ça vient de tripalium. Œuvre, ça se dit opus, operatio, operatio, en latin, c'est le travail. L'œuvre de la création, c'est le travail de Dieu. Et franchement, quand on regarde l'œuvre de la création, on se dit, chapeau, il a bien travaillé. C'est beau. C'est beau, c'est varié, c'est bien fait, c'est même extraordinairement bien fait. Quand on va dans le monde de l'infiniment petit, dans le monde de l'infiniment grand, on voit qu'il a bien travaillé. Chapeau le bon Dieu. Et quand Dieu crée le monde, le texte de la Genèse nous dit, et Dieu vit ce qu'il avait fait, et cela était bon. Pour nous faire plaisir à nous les humains, quand il crée l'homme, il dit, et Dieu vit ce qu'il avait fait, cela était très bon. Et puis, il y a un petit passage qui est quand même très intéressant, c'est que lorsque Dieu finit la création, donc il a fini son travail, c'est le septième jour. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Il était content de son travail. Et content de son travail, et il l'a sanctifié, c'est-à-dire qu'il l'a fait, mais il l'a sanctifié avant, c'est-à-dire que Dieu a mis tout l'amour qui est infini dans tout ce qu'il a fait. Et on voit, hein, on voit bien, quand une maîtresse de maison, quand elle prépare un plat pour son cher mari ou pour des invités qu'elle aime beaucoup, elle met le paquet, elle fait ça très bien, c'est aux petits oignons, on dit. Hein, et elle a mis les petits plats dans les grands, elle a mis beaucoup d'amour dans ce qu'elle a fait. Ben Dieu a fait pareil, et il a béni. Et puis, ça c'est la création. Mais il y a un autre passage au chapitre 2 de la Genèse. Lorsque Dieu crée l'homme, il y a deux récits de la création, comme vous savez. Dans le deuxième, le texte nous dit que Yahvé Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin de l'Éden pour le cultiver et le garder. Le texte latin dit « ut operaretur » pour qu'il le travaille. La traduction dit « pour le cultiver et le garder », mais en fait, pour qu'il le travaille.
Dès l'origine, on était condamné à travailler.
Pas condamné, justement. Voilà, c'est ça la différence. C'est qu'il ne faut pas oublier que ce chapitre 2, le péché originel n'a pas été commis. C'est avant la chute. Et donc, c'est au moment où tout se passe bien avec le bon Dieu.
Ça nous dit quelque chose sur la nature et la vocation de l'homme.
Ça nous dit quelque chose sur la raison d'être de l'homme. Dieu a voulu que sa créature, dont il vit que c'était très bon quand il l'a créé, il a voulu que sa créature soit co-créateur, continue le travail de la création. Regarde ce que j'ai fait, tu vois, c'est beau, hein, je te le donne, tu le cultives et tu le gardes. C'est-à-dire que tu le gardes, l'amour que j'y ai mis, tu gardes cet amour dans toute l'œuvre de la création. Te sers pas, Adam et Ève n'imaginaient même pas qu'ils pouvaient se servir de ce travail pour s'écarter de Dieu. Ils travaillaient avec Dieu. Le texte nous dit aussi que Yahvé Dieu se promenait dans le jardin à la brise du jour. C'était une harmonie parfaite. Alors ça, c'est le chapitre 2, dans lequel le travail est une bénédiction. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le péché originel. Le péché originel qui introduit l'orgueil et son cousin germain qui est l'égoïsme. Le péché originel est un péché d'orgueil. Si tu manges du fruit de l'arbre, dit le serpent, tu seras comme Dieu, tu connaîtras le bien et le mal. Ça, c'est extraordinaire, ce pouvoir de décider ce qui est le bien et le mal. Et ce péché originel qui a renversé complètement les rôles et qui a enlevé de l'être de l'homme, l'amour que Dieu y avait mis, parce que l'homme l'a enlevé, et donc il s'est retrouvé avec le seul amour de lui-même, un amour désordonné. Et Dieu l'a chassé du paradis terrestre. Et c'est en le chassant du paradis terrestre qu'il l'a chassé, enfin c'est l'homme lui-même qui est parti, et donc il s'est écarté de cette bénédiction initiale, et voilà pourquoi le travail est devenu dur.
En même temps, c'est pas évident, prenons un exemple concret.
Oui.
Vous dites que l'homme, Dieu a voulu que l'homme soit co-créateur.
Oui.
Mais prenons le cas d'un jeune qui travaille dans un service de marketing téléphonique, par exemple.
Oui.
c'est quand même difficile de se croire co-créateur, de participer à l'œuvre de Dieu quand on fait des travaux qui sont...
Il ne participe, évidemment, on pourrait penser, je comprends ce que vous voulez dire, que le seul travail co-créateur, c'est celui effectivement d'un jardinier, d'un cultivateur, d'un agriculteur. Lui, il est en contact direct avec... Bon, mais Dieu savait très bien que l'homme allait évoluer, que l'homme allait créer des tas de choses. Et au fond, celui qui fait du marketing téléphonique n'est que un petit maillon d'une chaîne. Si on remonte, on va arriver à la gestion de l'humanité, à la gestion du monde. C'est-à-dire au fait qu'on voudrait... Alors bien sûr qu'on a perdu ces points de repère, mais c'est ce que Dieu aurait voulu, qu'à travers tout ce qu'on fait, eh bien, nous puissions collaborer à l'œuvre de la création, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, prenez une voiture, par exemple... Qui est-ce qui construit la voiture? Est-ce que c'est celui qui l'a dessinée? Est-ce que c'est le propriétaire de l'usine? Est-ce que c'est celui qui fait les sièges, celui qui fait le volant? Tout le monde. C'est pas, il n'y a pas un créateur de voiture, même si certaines marques nous disent créateur d'automobile, mais ils ne sont pas créateurs, chacun est co-créateur. Et donc, il y a énormément de tâches qui sont éloignées, si vous voulez, du concept original ou du but final, mais qui entre dans la fabrication de produits. Et je pense que tous les travaux, s'ils sont honnêtes, quel que soit le travail qu'on réalise, j'ai ici un petit texte de Jean-Paul II. Non, c'est un autre de Jean-Paul II que j'ai.
Alors, le père est venu avec une dizaine de petites fiches qui sont sur la table.
Oui, c'est pas des petits antisèches. Il faut bien travailler, donc j'ai préparé mon travail. Non, c'est un texte de Saint José Maria qui dit qu'il est temps que nous, les chrétiens, nous proclamions bien haut que le travail est un don de Dieu et qu'il n'est pas censé diviser les hommes en diverses catégories selon le travail qu'ils réalisent. Ça, c'est une vision qui n'est pas chrétienne. De dire, toi, tu es moins bien parce que tu fais un travail de moindre importance. À l'université de Navarre, qui est une œuvre apostolique de l'Opus Dei, lorsque Saint José Maria allait là-bas pour rencontrer les gens qui y travaillaient, il voulait toujours, et il a toujours insisté, pour que lorsqu'il faisait des réunions publiques, le recteur de l'université soit là et toutes les dames qui s'occupaient de l'entretien matériel des salles de classe, des couloirs. Et un jour, il l'avait dit, j'étais là d'ailleurs.
Chacun reconnu comme co-créateur. Justement.
Tout à fait. Et il disait, un jour, je me rappelle, dans une réunion publique comme ça, il a dit, qu'est-ce qui est plus important? Le travail que fait le recteur, là-bas, il s'appelle le recteur magnifique, ce qui est amusant. Il dit, alors, qu'est-ce qui est plus important? Le recteur magnifique ou la dame, et il donnait un exemple très très simple, qui change le rouleau du papier hygiénique des toilettes du recteur. Et bien, il dit, je sais pas. Parce que si la dame ne fait pas son travail, le recteur va se fâcher, il va être de mauvaise humeur, et ça va se répercuter dans toute l'université. Donc il dit, vous voyez, comme c'est important... Toute tâche est importante. On peut, vous savez, vous pourrez essayer avec votre montre, si vous en avez une, de desserrer une petite vis. Vous verrez, elle ne marche plus. Donc il faut que le boulon soit bien serré.
Alors, ce qui est très déroutant dans le travail, quelle que soit la position qu'on occupe dans une entreprise, dans une hiérarchie, on est tous confrontés à une réalité qui est celle de la souffrance. C'est-à-dire que le travail nous fait toujours, à un moment donné ou à un autre, souffrir.
Ça, c'est la conséquence, justement, du péché originel, de ce passage que vous avez lu. Mais n'oubliez pas que la conséquence du péché originel est un mal. La souffrance est un mal. Et donc, justement, quand on n'a pas incorporé la logique de Dieu à son travail, on y trouve le mal. Si on incorpore Dieu, si on incorpore la bénédiction de Dieu, si on revient par la pensée et puis par le comportement au premier et au deuxième chapitre de la Genèse, alors on se rend compte que on peut retrouver l'amour de Dieu dans le travail. On peut écarter un petit peu cet aspect du mal, cet aspect malédiction, pour retrouver l'aspect bénédiction. Et d'ailleurs, regardez, il y a quelque chose qui se dans la vie courante. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, et probablement des gens qui nous écoutent, qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail. C'est un drame. Le chômage, c'est catastrophique. Quand on n'a rien à faire, on dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Mais bien sûr, donc quand on n'a pas d'occupation, quand on n'a pas quelque chose à... on n'a pas de grain à moudre, c'est difficile, effectivement, de trouver la bénédiction de Dieu. Et quelqu'un qui n'a pas de travail, alors c'est paradoxal, quelqu'un qui n'aurait pas, suivant ce que vous me disiez tout à l'heure, quelqu'un qui n'aurait pas la malédiction du travail devrait être heureux. Or, il ne l'est pas. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose, vraiment, du fond, on le disait tout à l'heure, l'homme est fait pour travailler. Et c'est sa dignité.
C'est une façon d'être associé à cette grande chaîne de l'humanité dont vous parliez.
Tout à fait. D'être associé à l'œuvre de la création et d'être associé à ses frères les hommes, parce que nous sommes tous solidaires, effectivement, les uns les autres. Et tous, il faudrait que nous soyons tous les éléments d'un puzzle, d'un magnifique puzzle que Dieu est en train de faire devant nous, et que chacun puisse arriver à remplir son rôle, et donc à transformer son travail en bénédiction pour Dieu, le lui rendre, pour lui-même, et puis pour les autres. Parce qu'avec mon travail, je fais du bien aux autres, je fais du bien à la société. Et si dans mon travail, je suis uni à Dieu, d'une certaine manière, mes collègues de travail, je les unis à Dieu. Ils s'en rendent peut-être pas compte, ils sont peut-être pas conscients, mais la réalité est là.
Comment fait-on avec les injustices? Parce que le travail, c'est un lieu quand même où il y a beaucoup d'injustices. Hein. Il suffit d'interroger quelques collègues de travail, bien de sûr. Déjeuner, pour s'apercevoir que un tel fait telle chose, que un tel a un salaire plus élevé, que on devrait faire comme ci, puis on fait comme ça.
S'il y avait une recette miracle, on l'aurait déjà appliquée.
Mais est-ce qu'il y a une attitude, je veux dire, pour vivre le travail de façon chrétienne?
Oui, c'est la même attitude, je pense, que celle de la vie. Quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui sait que Dieu est son père et que par conséquent il est enfant de Dieu, va prendre tout ce que Dieu lui donne comme des attitudes paternelles à son égard. Alors évidemment, quand on dit paternel, parfois on a une image du père qui n'est pas bonne, hein, ça peut arriver. Alors il faut s'abstraire de tout ça et se dire quelle est l'attitude d'un bon papa. Et Dieu est un père qui est bon. Si j'ai la foi, je vais prendre tout comme une manifestation de sa providence et de son amour. C'est-à-dire que la situation dans laquelle je me trouve, que ce soit mon âge, mon sexe, mon état de santé, ma fortune personnelle, le pays où j'habite, etc., tout cela, je vais le prendre comme quelque chose que Dieu me donne pour que je le fasse fructifier. Et donc, je vais l'apprécier.
N'importe quelle situation.
Sauf la situation d'injustice, sauf la situation de mal. N'oublions pas que le mal...
Mais ça, c'est très relatif par rapport aux personnes.
Il y a des mots qui sont, des mots M-A-U-X, qui sont objectifs, et il y a des mots qui sont subjectifs. Je peux considérer que... Regardez, pensez aux étudiants, enfin aux lycéens, collégiens, qui disent « le prof m'aime pas ». C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Mais de toute façon, ce qu'il faut se dire dans un cas comme celui-là, bon, qu'il m'aime ou qu'il m'aime pas, moi j'ai un travail à faire, moi j'ai une obligation, c'est ce que Dieu me demande, je vais le faire. Alors, les injustices au travail, mais il faut les combattre avec des moyens chrétiens, avec des moyens, surtout par la prière, ça sera par le sourire, ça sera par beaucoup de choses, et puis aussi par la justice.
Père Gérard Thieu,
oui.
Nous allons prendre maintenant un extrait d'un recueil d'homélie de José María Escrivá. Le titre de l'ouvrage, c'est « Amis de Dieu », édition Le Laurier. Je ne peux éviter d'éprouver un certain malaise lorsque quelqu'un, me parlant de son travail, se donne des airs de victime, affirme que cela lui prend je ne sais combien d'heures par jour, alors qu'en réalité, il ne fait même pas la moitié de ce que font beaucoup de ses collègues, qui en fin de compte, ne sont peut-être mus que par des critères égoïstes ou tout au plus purement humains. Nous tous, ici présents, occupés à dialoguer personnellement avec Jésus, nous remplissons une tâche bien précise. Médecins, avocats, économistes, pensez un peu à vos collègues qui se distinguent par leur prestige professionnel, par leur honnêteté, par leur service dévoué. Ne consacrent-ils pas à ce travail de nombreuses heures de la journée et même de la nuit? N'avons-nous rien à apprendre d'eux? Alors c'est un texte assez costaud, hein, qui dénonce bien l'attitude qu'on a souvent, qui est la quête au fond du repos.
Ou la quête du pouvoir aussi. Hein. Parfois, vous voyez, c'est ça, quand on revient toujours au péché originel, on revient toujours au départ, au point de départ. Si je laisse ce désordre, le désordre du péché originel, c'est qu'il a renversé les valeurs. Au lieu de mettre Dieu à la première place et l'homme en dessous, il a renversé les valeurs, il a mis l'homme au-dessus de tout, et Dieu, les miettes, le miette de temps qui vont rester, je le lui donnerai. Et quand l'homme fait ça, il renverse les valeurs, il introduit dans sa vie, dans son comportement, l'égoïsme, l'orgueil, la recherche de compensation ou d'honneur. C'est-à-dire qu'il se cherche lui-même. Et c'est là que le travail devient source d'injustice. Si nous étions capables de redonner au travail ce sens de bénédiction, Seigneur, merci, tu m'as donné un travail, en le faisant bien, en y mettant de la perfection, comme toi, Seigneur, tu as créé le monde avec perfection. Moi, je vais y mettre ma petite perfection à moi. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque, de Saint-José-Maria, pardonnez-moi, mais lorsqu'il était à Rome, là où il habite, dans la maison où il habitait à Rome, et où habite maintenant toujours le prélat, il y a une pièce qui est une pièce d'archives. Où il y a c'était des rayonnages, avec des archives. Et il y avait quelqu'un, l'un des élèves de ce qu'on appelle là-bas le collège romain, c'est-à-dire des jeunes qui vont étudier de la théologie, il y avait une charge matérielle, quelqu'un avait une charge qui était de maintenir cet endroit propre. Cet endroit où on n'allait jamais. Des archives, on ne s'en servait pas. Et un jour, Saint-José-Maria est rentré dans cette pièce, il était quelqu'un d'autre, qui l'a raconté ensuite. Il est rentré, il a ouvert la lumière, et il a fait ce geste que les ménagères connaissent bien, qui consiste à passer son doigt sur les étagères et à regarder l'état de son doigt. Et il a passé le doigt et c'était parfaitement propre. Et celui qui était là raconte qu'il a vu le visage de Saint-José-Maria s'illuminer. Et il a fait une réflexion en voix haute, disant, celui de mes enfants qui a la charge de tenir cet endroit propre est un saint. Parce que c'est vraiment un travail qu'il a fait pour Dieu. Personne ne rentre jamais là. Mais il nettoie ses étagères et il y met un petit peu de perfection. Si c'est pas par amour de Dieu, c'est pourquoi. Il n'est pas payé pour ça, c'était une charge matérielle. Personne ne va venir lui dire, ah, c'est bien, tu as... Mais il l'a fait pour Dieu. Et je pense aux mères de famille. Vous savez, les mères de famille qui travaillent, hein. Combien de fois je piège les mamans en disant, madame, vous avez 5-6 enfants, vous travaillez, madame? Et alors tout le monde pense à un travail professionnel. Mais, non, je ne travaille pas. Vous ne travaillez pas? Vous avez 5 enfants, un mari, une grande maison, vous travaillez pas? Oui, bon, évidemment que c'est un travail. Alors pensez à ce travail des mères de famille, qui est un travail qu'on ne voit pas. Malheureusement, la plupart des maris, ils me pardonneront, mais ils sont comme ça, d'ailleurs il faudrait qu'ils se corrigent, la plupart des maris, quand ils arrivent à la maison, ne voient que ce qui est en désordre, ce qui va pas, qu'est-ce qui se passe, et ils voient pas tout le travail qu'a fait une mère de famille. Et elle, pourquoi elle le fait? Elle n'est pas rétribuée. Je veux dire, il y a personne qui vient lui donner des diplômes. Elle le fait par amour pour son mari, par amour pour ses enfants, par amour pour sa maison. Une maison bien tenue. Ben voilà.
Le travail, au fond, c'est le lieu d'une offrande de soi dans le secret de son père, comme c'est dit dans le sermon sur la montagne.
Oui, tout à fait. Et si tu veux prier, rentre dans ta chambre et prie dans le secret. Eh bien, lorsque tu travailles, quel que soit ton travail, pense que Dieu te regarde, pas avec un regard inquisiteur, hein, il te regarde avec des yeux pleins d'amour, et Dieu dit, tu me l'offres. Pensez aussi à une autre image. Ces petits-enfants, ça vous est arrivé peut-être, on se promène en famille, et on va dans la forêt, et il y a les enfants qui gambadent à droite à gauche, et il y en a un qui ramasse n'importe quoi, un caillou, un bout de bois, fait, il le trouve joli, et il amène ça à papa et à maman, il dit, regarde, je te le donne, c'est un cadeau qu'il fait. C'est objectivement, ça n'a aucune valeur. Ou le fameux coquelicot. Hein, les enfants qui ramassent les coquelicots, évidemment, bien qu'ils les ramassent, paf, ils flétrissent. Et ils le donnent à son père et à sa mère. On n'a jamais entendu dire un papa ou une maman qui voit que son petit lui donne ce cadeau, ce bout de caillou, ce bout de verre. Écoute, c'est dégoûtant, laisse-toi. Oh, merci beaucoup, mon chéri, comme c'est joli, comme c'est gentil. Après, peut-être que 3 mètres après, il va le jeter. Parce que ça sert à rien. Mais c'était un geste d'amour. Ben voilà. C'est ça qu'il faut essayer de faire, chacun, dans la vie de tous les jours, et à travers ce travail qui nous occupe de nombreuses heures.
Au fond, le travail en soi n'est presque pas si important. C'est l'intention et la relation à Dieu qui est derrière.
Exactement. C'est pour ça que offrir son travail, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on emploie cette expression, offrez votre travail, mais à quoi ça lui servir au bon Dieu? À lui montrer que tu l'aimes, à lui montrer que tu veux l'imiter, à lui montrer que tu veux mettre dans tes activités la même bénédiction, le même amour que lui a mis.
Père Gérard Thieu, je vous remercie de nous avoir éclairés. Alors pour aller plus loin, je propose une lecture, donc le livre « Amis de Dieu » de José Maria Escrivá, édition du Laurier, ou « Travail ordinaire, grâce extraordinaire » de Scott Hahn, toujours édition du Laurier. Si vous voulez réécouter cette émission, si vous avez des questions ou un témoignage sur ce thème, rendez-vous sur le site www.aquoisaserlèglise.com. Vous pouvez également écrire à Radio Notre-Dame, à quoi ça sert l'église, 311 rue Rosenwald, Paris 15e. À la semaine prochaine.
Au revoir.